France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et l'invité du grand entretien est aujourd'hui épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille. Il est par ailleurs directeur général de la Fondation Alzheimer. Vos questions, amis auditeurs, et réactions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Philippe Amouyel, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro aujourd'hui. Avec vous, on va faire un point sur l'épidémie de Covid, sur la campagne de vaccination, notamment la troisième dose, sur le pass sanitaire. L'Assemblée nationale a voté dans la douleur, le prolongement jusqu'en juillet prochain de la possibilité d'y recourir. Alors, j'ai fait les comptes, on va commencer par là. C'est la première fois depuis 2 mois qu'un épidémiologiste s'assoit à ce micro sur France Inter. Dites-nous, pour commencer, si c'est un signe de fébrilité journalistique ou si vous aussi, sur votre tableau de bord, vous voyez des clignotants s'allumer qui vous inquiètent. Diriez-vous, comme le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, que depuis une semaine, l'épidémie recommence à gagner du terrain en France. Est-ce qu'on est face aux prémices d'une vague, face à une vaguelette, face à un ressac, face à un clapot? Je ne sais pas quelle image choisir pour décrire la situation. Aidez-nous.
Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle de ne plus avoir d'épidémiologistes sur vos plateaux. Il faut quand même qu'on change un peu. Ça faisait 2 ans que vous en aviez à peu près tous les 2 jours en moyenne.
Oui, voilà.
Ça, c'est le premier point.
Enfin, soyez tout de même le bienvenu.
Merci. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui se passe actuellement?
Oui.
Je crois qu'il faut voir le côté positif de la chose d'abord. On a pu en France avoir un taux de vaccination qui est remarquable et qui est notre premier bouclier actuellement. Et ce bouclier protège ceux qui sont vaccinés, mais aussi ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc on a pu éviter, alors qu'on le craignait tous, y compris moi-même, cette augmentation potentielle qu'on aurait pu avoir à la rentrée scolaire. Mmh. On l'a bien gérée. Probablement, protocole sanitaire bien appliqué en général. Les Français de ce côté-là sont sérieux. La vague de froid, elle est en train de pas arriver très vite, donc elle n'est peut-être pas encore arrivée. Et ce qu'on voit surtout, à mon sens, ce n'est pas forcément une reprise, c'est un arrêt de la décroissance qu'on a connue là depuis 2 mois qui expliquait l'absence des épidémiologistes sur les plateaux. Et ça, c'est probablement plus un changement de comportement que un événement intercurrent. Je vais prendre 2 exemples qui peuvent confirmer ça. Le premier, c'est on voit de plus en plus de gens qui toussent, qui éternuent, et ce n'est pas du Covid, c'est du rhume. Donc toutes les infections virales banales sont en train de revenir. De même, les gastro-entérites sont en train de reprendre du terrain. Les bronchiolites inquiètent nos amis pédiatres. Tout ça, ça signe quoi? Ça signe que les mesures barrières qu'on avait mises en place, pas forcément les confinements, mais simplement le port du masque systématique, le lavage des mains,
ouais,
sont en train de tomber. Et ça pourrait expliquer cette petite résurgence.
Donc en tout cas, ni vague, ni vaguelette, ni ressac.
Pour l'instant, on est à un niveau stable.
Voilà.
Alors, on frise le 50, le seuil d'alerte, on descend un peu au-dessous.
Voilà.
Mais en effet, ce qui se passe, c'est que ça ne descend plus.
Et par rapport à ce qu'on a connu, vous avez raison, les chiffres restent bas. Il y a pile un an, il y avait 50 000 cas par jour. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10 fois moins. Mais le fameux R, le taux de reproduction du virus, est repassé au-dessus de 1. Mais au Royaume-Uni, on est à 40 000 nouveaux cas quotidiens. Le nombre de contaminations est à la hausse également aux Pays-Bas, en Allemagne. Est-ce qu'on pourrait voir la même chose en France?
Alors, si on relâche la vigilance, peut-être. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni ou le Danemark, qui est en train de reprendre, qui était très en avance sur ses protections, ont chacun réduit significativement leurs mesures barrières. Le Royaume-Uni, dès le 15 juillet, aujourd'hui, si vous êtes dans le métro londonien, il y a quoi, 2 personnes sur 10 qui portent des masques. Le Danemark a libéré son passe qu'il avait mis très tôt au mois de mars et on voit des remontées. Donc ça veut dire que le virus est toujours là. Ce variant Delta, qui est massivement en Europe, continue à pousser quand il n'y a pas suffisamment de barrières vaccinales, quand il n'y a pas suffisamment de mesures. Et c'est ce qu'on voit avec l'explosion qu'on voit actuellement en Europe de l'Est où les taux de vaccination sont très bas.
Philippe Amouyel, est-ce que la nouveauté, ça n'est pas qu'avec la vaccination, une vague de contamination ne débouche plus nécessairement sur une vague hospitalière? On le voit d'ailleurs au Royaume-Uni, où les contaminations ne se traduisent précisément pas par des hospitalisations massives. Donc il faut désormais penser à découpler vague de contamination et vague d'hospitalisation.
Oui, c'est ce qu'on a vu par exemple cet été en métropole. Malheureusement, pas dans les territoires d'outre-mer et les domaines d'outre-mer, mais en métropole, on a eu des poussées qui étaient quand même importantes, en particulier dans le sud-ouest et dans les Bouches-du-Rhône, par exemple. Mais on n'a pas eu les saturations massives qu'on a connues lors des vagues précédentes. Donc ça, c'est l'élément très positif, c'est-à-dire que la crise épidémique et la crise sanitaire sont découplés maintenant.
Redoutez-vous, comme celui qu'on surnomme le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, qu'une épidémie de grippe puisse se combiner à une nouvelle poussée de Covid? Il dit que ce scénario serait absolument dramatique.
Oui, il a raison. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu de grippe, ni en France, ni d'ailleurs dans le reste du monde, l'hiver dernier. Et chaque année, on s'immunise tous un petit peu contre la grippe, si bien que le nouveau variant va tomber sur une barrière immunitaire. Là, on est dans un espace où on ne sait pas complètement si les variants qu'on a choisis dans le vaccin vont être les plus efficaces. Il y a toujours un risque là-dessus, parce qu'on n'a pas eu assez de cas, et si la population est capable de le recevoir. Donc, il faut vraiment continuer cet hiver à se préparer à ça en se vaccinant et en maintenant un certain nombre de mesures barrières.
Donc, votre prescription, c'est double vaccination pour éventuellement la troisième dose, ou ceux qui ne sont pas vaccinés contre le Covid, et vaccination contre la grippe. La campagne démarre aujourd'hui.
Exactement, et on peut faire les deux en même temps, je le rappelle.
Un mot encore sur le gouvernement britannique, qui a dit surveiller de très près un nouveau sous-variant du variant Delta, le AY4.2. Qu'en est-il? Que sait-on de ce variant? Faut-il s'en inquiéter?
Alors, les nouveaux variants, ils apparaissent toujours là où le virus circule le plus. Le Royaume-Uni est dans cette situation. Ils ont vu ce variant apparaître il y a à peu près 3 ou 4 mois. Il prend un peu d'ampleur chez eux, de l'ordre de 5 à 6%. Il est apparu au Royaume-Uni, il est apparu au Danemark, mais il a disparu. On ne le retrouve pas en France. Je ne connais pas les chiffres de fréquence. Il est très faible. Aujourd'hui, c'est quand même massivement le variant Delta qui est très contagieux. Et il faut voir le seuil de contamination avec les résultats qu'on veut produire les Anglais pour savoir s'il y a un risque particulier sur celui-ci.
Un mot sur l'hôpital en tant que tel. Dans Le Monde, le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, soulignait il y a quelques jours que les soignants ont eu une réponse extraordinaire lors des deux premières vagues. Ils ont été très sollicités lors de la troisième, entre janvier et juin. Ils sont épuisés, dit Delfraissy. Mais il dit n'avoir jamais vu un tel niveau de découragement des équipes hospitalières. Je ne suis pas sûr qu'en cas de nouvelle vague importante, leur réponse serait aussi importante que lors des trois premières. Est-ce que vous partagez son inquiétude, Philippe Amouyel?
Alors, il faut voir d'où on vient. Décembre 2019, je vous rappelle qu'il y avait une crise à l'hôpital concernant l'accueil, la qualité de vie, le travail et la charge. On est passé par cette phase. Tous les personnels soignants se sont mobilisés une fois, deux fois, trois fois, dans une durée assez longue. Et là, on revient avec une économie qui redémarre, une activité qui reprend, donc une surcharge de travail. Heureusement qu'on n'a actuellement pas de crise sanitaire. Donc, bien sûr, on voit des départs. On en a de plus en plus dans nos rangs. Pas pour des raisons, je ne suis pas vacciné, hein, bien au contraire, mais pour des motivations, pour trouver d'autres lieux. Et la crise du Covid et les confinements ont dû être des accélérateurs. Il y a également cette surcharge de travail que l'on observe. Alors, il faudrait bien sûr éviter un pic de grippe et un pic de Covid.
Venons-en à la vaccination. Près de 50 millions de Français sont donc désormais pleinement vaccinés. C'est un peu moins de 74% de la population. Avons-nous, Philippe Amouyel, atteint le plafond de verre? Pensez-vous qu'il soit crédible d'imaginer aller significativement plus loin?
C'est 74% de la population totale. Mais si on ramène ça à la population qui peut recevoir le vaccin, c'est quand même 86%, ce qui est un score absolument remarquable. On est dans les zones qui nous permettraient de bloquer avec un vrai bouclier immunitaire.
C'est un vrai succès, hein, c'est ce que vous dites.
Il faut le dire. Ouais. Je pense qu'il faut le dire, c'est un vrai succès. On est juste derrière le Portugal qui doit être à 90% à peu près, donc c'est un vrai succès de ce côté-là. Et ce qu'il faut voir maintenant, c'est ce qu'il faut vacciner. Quelles sont les personnes qu'il faut vacciner? Toujours les plus fragiles, parce que c'est là que le risque de crise sanitaire se situe. Il en reste encore en France, un peu trop, en particulier dans les classes avancées.
Combien? 500 000 à peu près.
À peu près, 500 000, oui. Quand on regarde maintenant les classes d'âge qui remontent là, dans l'épidémie qui se stabilise, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien sûr les moins de 12 ans, puisqu'ils ne sont pas vaccinés, mais on voit également les 60-80 ans. Pardon. Et c'est dans cette population qu'il y a eu les premières vaccinations et qu'il est important de relancer l'immunité dans ce contexte-là. Donc la troisième dose chez les plus de 65 ans, là, est également un outil du bouclier. Maintenant, le passage à un niveau supérieur, on va continuer à convaincre, bien sûr, mais peut-être qu'un jour, il faudra, si jamais, une fois que l'épidémie est endémique, envisager quelque chose qui soit peut-être obligatoire.
Sur les troisièmes doses, environ 2 millions de personnes l'ont reçue, sur les 6 millions qui peuvent la recevoir. Vous allez nous dire comment expliquer le fait que ça patine et nous dire s'il faut passer à un stade plus contraignant, comme semble y réfléchir le gouvernement. L'idée, fait son chemin, dit Gabriel Attal, serait éventuellement de conditionner conditionner la validité du pass sanitaire à l'injection de la troisième dose. Votre analyse sur ce point?
Alors d'abord, les données sur la troisième dose, celles qui montrent que ça a réellement intérêt, viennent beaucoup des données israéliennes et des chiffres que l'on voit d'augmentation de l'épidémie. Donc maintenant, on se dit, après 65 ans, ça a un véritable apport en matière d'épidémiologie.
C'est efficace.
Le deuxième point, c'est que c'est assez récent tout ça. La communication autour de cette troisième dose, où on a beaucoup de questions sur les vaccinations en général, est peut-être un peu brouillée. Donc il faudrait peut-être réinsister sur cette communication en expliquant bien les enjeux, en expliquant bien les bénéfices, en expliquant bien les personnes de manière ouverte. Alors vous trouvez ça bien sûr sur les sites, mais c'est noyé dans l'information générale. Donc je pense qu'il y a un effort d'information. Et puis peut-être, si jamais on arrivait dans des situations difficiles, envisager des contraintes. Mais cela doit être des armes de dernier outil. Il faut quand même continuer à convaincre, parce que ces gens-là sont déjà eu deux doses, il n'y a pas de raison qu'ils ne prennent pas la troisième. C'est plus un oubli, une indifférence, un manque de temps et pas forcément la conscience de l'importance de
et
cette dose.
Et tordre le bras, ça n'est pas efficace. C'est ça ce que vous dites, parce que c'est quand même tordre le bras. Hein, si vous n'avez pas de passe sanitaire parce que vous n'avez pas fait la troisième dose, c'est une sacrée contrainte.
Alors, en effet, c'est tordre le bras si jamais on voyait que l'épidémie reprenait trop fort, de manière trop importante et que, à ce moment-là, il faudrait absolument protéger pour éviter que se recoupe la crise épidémique et la crise sanitaire.
Sur la troisième dose pour tous, quelle est votre position?
Pour l'instant, on n'a pas assez d'informations là-dessus. Je pense qu'il faut mettre les... C'est difficile de faire une campagne de vaccination. Il faut concentrer l'énergie du message sur ceux qui seront les plus susceptibles de réduire l'épidémie à moyen terme et à court terme. À long terme, c'est une autre question qu'il faudra se poser probablement l'année prochaine.
Les États-Unis se préparent à pouvoir commencer dès le mois prochain la vaccination de 28 millions d'enfants âgés de 5 à 11 ans. Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne idée? Est-ce qu'il va falloir l'envisager ici? Ou là aussi, c'est prématuré même d'en parler?
Donc la première chose, c'est est-ce que les résultats des études qui vont être données aux agences permettent de conclure qu'il y a un bénéfice pour les enfants, un bénéfice pour la population et des effets indésirables limités. Ça, c'est le premier point qui doit gouverner. La décision, elle est ensuite de nature peut-être plus épidémiologique, mais un petit peu politique également, parce que là, on est à 86% des éligibles. Il y a à peu près 9,5 millions d'enfants de 11 ans à zéro. Donc, ça permettrait de gagner en matière de protection et de bouclier immunitaire. Donc oui, ça pourrait être utile, peut-être jusqu'à un certain âge, dans un certain délai, et gagner des points dans cette population. Et ça serait vraiment, à mon sens, utile. Donc, en pratique, il va y avoir une décision, une discussion à prendre là-dessus, dès qu'on saura si on peut le faire.
Il y a beaucoup de questions au standard sur les vaccins. On va donner la parole aux auditeurs d'Inter. On parle, nous aussi, Philippe Amouyel, des vaccins, pas des traitements. Il n'y a toujours aucun espoir de voir arriver des médicaments pour soigner le Covid. Le vaccin, pour l'instant, c'est le Graal.
Alors, les virus, en général, sont difficilement traitables par des médicaments. Ce sont les vaccins qui marchent le mieux. Dans certaines situations, on a des anticorps monoclonaux, dont certains doivent être pris au moment où on est infecté, juste avant les symptômes, qui peuvent même être pris par voie orale. Donc, il y a un progrès de ce côté-là. Maintenant, il y a d'autres essais qui sont en cours, donc il faut qu'on regarde ce qui se passe.
Allez, on file au standard, où nous attend Olivier. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors, je dis simplement que pour un pays qui a 67 millions d'habitants, on compte tous les jours 1700 personnes environ qui meurent de vieillesse ou de maladie, dont 400 du cancer. Le 17 octobre, il n'y a eu que 5 morts du virus. Alors, est-ce bien raisonnable de continuer de parler d'une pandémie ?
Merci pour cette question. Philippe Amouyel vous répond.
Alors, une pandémie, c'est une maladie qui se répand sur l'ensemble de la planète. Oui, c'est toujours une pandémie. Maintenant, l'impact dans chacun des pays est différent. Et heureusement, on voit le nombre des décès diminuer. Mais tout ça, c'est quand même grâce à cette vaccination, en particulier des plus fragiles. Donc, il faut quand même continuer dans cette direction et ne pas relâcher la vigilance tant que d'autres pays n'auront pas été vaccinés.
Jean au standard. Bonjour, bienvenue.
Oui.
Alors, vous écoute.
Voici ma question. On ne cesse de nous dire que les gens vaccinés protègent les non-vaccinés. J'aimerais bien savoir comment c'est possible à partir du moment où on nous a dit et répété que le fait d'être vacciné n'empêche pas d'être contaminé et contaminant. Je ne comprends pas comment les gens vaccinés peuvent protéger les non-vaccinés. Et je pose la question d'autant plus tranquillement que je suis moi-même vacciné.
Merci pour... votre passe sanitaire, Jean, il n'est pas nécessaire au standard d'Inter, mais vous l'avez précisé vous-même. Philippe Amouyel vous répond.
Très pratiquement, lorsque l'on est vacciné et qu'on est soi-même infecté, on lutte immédiatement contre la propagation du virus et notre capacité à infecter les autres est bien inférieure à celle de quelqu'un qui ne serait pas vacciné. Ça a été très bien démontré dans l'étude israélienne sur la troisième dose, où les médecins ont comparé trois doses versus deux doses. On voit que d'une part, on diminue quasiment par 20 le risque de faire une forme grave, mais également de plus de 5 à 10 fois le risque de contaminer quelqu'un d'autre. Donc c'est ça le bénéfice, c'est diminuer ce qu'on appelle le fameux coefficient de reproduction de la maladie qui traduit la diffusion de l'épidémie. Et c'est en ça qu'en diminuant la transmission, on protège les autres.
Question de Denis, pourquoi les pays fortement vaccinés ont plus de contamination, y compris chez les vaccinés? Alors je ne sais pas si la statistique est bonne ou pas, Philippe Amouyel.
Alors je vais juste prendre un exemple, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, alors on parle de la Russie, mais les chiffres sont difficilement exploitables. En revanche, si on regarde les pays d'Allemagne de l'Est, tout simplement. Lettonie, c'est 1153 cas par jour et par million d'habitants. La Géorgie, 1000. La Serbie, 933. Et ces populations sont relativement peu vaccinés, généralement aux alentours de 30%, rarement au-delà de plus de 50%. Donc on voit là l'impact de la vaccination.
Allez-y,
on voit donc l'impact de la vaccination. Et la notion de plus il y a de gens vaccinés, plus il y a de contamination, c'est pas vrai, il y a peut-être l'exemple du Royaume-Uni, mais c'est très particulier. Le Royaume-Uni a laissé tomber ses mesures barrières et a été vacciné avec le vaccin AstraZeneca. Donc il faut se poser la question.
Geoffroy au standard, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Vous nous dites que la vaccination, là, c'est la solution pour résoudre tous les problèmes. Et notamment, vous nous dites que le système hospitalier, il pâtit de beaucoup de gens qui quittent le système hospitalier parce qu'ils sont à bout de souffle, mais pas parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Pourtant, sur les territoires, moi, par exemple, j'habite dans une ville où là, on vient de voir dans la presse une cinquantaine de médecins qui lançaient un cri d'alerte pour dire que l'hôpital de la ville, ils sont en train de fermer des services, ils manquent de bras, ils ne savent plus comment faire parce qu'ils n'ont plus assez de personnel. J'ai l'impression que le professeur, il oublie de mentionner cela et du fait que notre système hospitalier, il manque crucialement de moyens et presque, on pourrait voir un peu de complicité avec le gouvernement qui veut faire passer la vaccination en premier lieu, avant tout, plutôt que de mettre des moyens dans le système.
Merci pour cette question. Je vous laisse le mot complicité et je cède la parole à Philippe Amouyel.
Donc, je suis moi-même médecin. J'ai dans mon service des médecins qui démissionnent. Et c'est pas parce qu'ils sont vaccinés, c'est pas parce qu'ils sont pas vaccinés, mais ils démissionnent pour des raisons de conditions de travail. Je vous rappelle que décembre 2019, l'hôpital n'allait pas très bien à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a eu deux crises, les gens sont fatigués, donc il est vraiment important qu'on puisse encore limiter l'expansion de telles épidémies. Donc, très concrètement, en partie vous avez raison, les déstructurations et les déstabilisations qu'on observe sont dues à deux choses. Relativement peu au fait des médecins ou des personnels soignants qui ne veulent pas se faire vacciner, mais en revanche, à une tendance continue qu'on connaît depuis 2 ans de désintérêt pour l'hôpital public.
Les débats ont été houleux, mais l'Assemblée nationale a donné dans la nuit de mercredi à jeudi un premier feu vert au projet de loi vigilance sanitaire, avec donc la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. J'ai bien dit la possibilité. L'opposition a critiqué l'atteinte aux libertés. Dites-nous, pour vous médecins, si ce pass est un outil efficace et si le citoyen Philippe Amouyel pense comme le scientifique.
Alors, il y a 3 outils qui ont été efficaces. Je reviens toujours dessus, la vaccination, l'usage du pass sanitaire pour diminuer la transmission et puis pour favoriser la vaccination également. Et enfin, cette notion de troisième dose. C'est les 3 armes qu'on a actuellement. Celle qui est la plus souple et la plus adaptable reste quand même le pass sanitaire. On pourrait le mettre, on pourrait l'enlever, on pourrait le circuler. C'est pas une obligation du pass sanitaire jusqu'en juillet, mais bien une possibilité de se réserver son utilisation. Pourquoi ? Parce que ça diminue le circuit de transmission. Et ça, c'est un élément important. Dernier point, le pass sanitaire a évolué. On a les vaccinés. Aujourd'hui, tous ceux qui font des tests diminuent, donc ont plutôt tendance à se vacciner. Et il y a maintenant également les adolescents depuis le 1er octobre. Donc, sa capacité à réduire la transmission est meilleure que celle qu'on a connue au début de l'épidémie.
Et le citoyen n'est pas inquiet pour les libertés publiques?
Non, ça ne me pose pas de problème de rentrer dans un restaurant, montrer un smartphone et le donner. Je ne vois pas en quoi c'est contraignant, aussi contraignant qu'on a l'air de le dire.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement du gouvernement sur la connaissance du statut vaccinal des élèves par les directeurs d'école. et les chefs d'établissement du secondaire. La FCPE, Fédération de parents, dit qu'une telle mesure porte les prémices d'une stigmatisation des élèves dans l'exercice de leur égal droit à l'éducation. Le député Les Républicains Philippe Gosselin a fustigé l'ouverture, je le cite, d'une brèche impensable dans un secret médical à l'école qui doit être conservé. Cette levée possible du secret médical vous semble-t-elle utile ou est-ce qu'elle vous inquiète tout simplement ?
Il faut voir dans quelles conditions elle va être faite. Ce qui est important avec l'école, c'est de ne pas stopper l'éducation. J'ai été pour le maintien des écoles ouvertes, contre l'avis de certains de mes collègues. Je pense que c'est un élément positif.
Secret médical tout de même.
Alors, secret médical, oui, mais c'est pas l'idée. Enfin, moi, j'ai pas compris ça comme une espèce de passe sanitaire qu'on mettrait systématiquement pour tous les enfants qui rentrent. Notre problème aujourd'hui, c'est de ne pas fermer de classe. Donc, le protocole disait un cas, on ferme la classe. Là, il y a des expérimentations. Un cas, en fonction du taux de vaccinés dans la classe, on la ferme ou on la ferme pas, ou on isole ceux qui sont pas vaccinés. Donc, si on veut réellement être efficace là-dessus et maintenir l'école le plus longtemps possible, les classes ouvertes le plus longtemps possible, je pense que ça pourrait être utile.
Philippe Amouyel, merci d'avoir été à notre micro ce matin. Épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur général de la Fondation Alzheimer. À dans 3, 4, 5 ou 6 mois, si j'ai bien compris. Voilà, j'espère, c'est ce qu'on peut se souhaiter.